Les actus de la semaine, les amis, parce qu'il y en a eu pas mal. C'était une semaine chargée.
Par quoi qu'est-ce que tu as remarqué, toi?
Je vais d'abord parler de moi et ensuite on parlera du reste.
Ah bah oui, bien sûr, après toi, bien sûr, le déluge. Voilà, voilà.
Des restes, monsieur des restes.
On va parler des restes, c'est nous. Vas-y.
C'est ça. Alors, déjà, lundi, il y a une interview qui a été publiée sur la chaîne Alex du Bazar Culturel. C'est une interview que j'ai fait avec Alex il y a quelques semaines et qui a été publiée lundi. J'étais très très content de faire cette interview. C'est ma première interview en tant que Nas. Je dirais ça comme ça, en tant que Nas le YouTuber. C'est ma première interview que j'ai donnée à un média. J'avais fait un témoignage, enfin des témoignages et tout chez Momo et tout, mais là c'était la première fois, donc c'était un bon exercice. J'ai parlé de mon parcours, j'ai parlé un peu de ce qui se passe en France, en Algérie, c'est quoi l'islam. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter.
Ben, moi je l'ai écouté et je suis très contente que déjà qu'il y ait des gens extérieurs à la postasphère qui s'intéressent à ce que tu peux dire. Et j'ai trouvé que c'était une des rares fois où on n'était pas dans de la théologie pure, en tout cas, et où tu as permis d'expliquer en fait le risque totalitaire qui existe déjà au sein de la Oumma, mais dont tout le monde s'accommode, et donc le lien avec l'islamisme politique qui risque de banaliser des choses pour des gens qui y sont pas habitués, en tout cas qui sont pas acceptables de premier abord, mais qui pour nous qui sommes des dissidents de la Oumma, sont des choses qu'on a fui et sur lesquelles on essaye d'alerter. Et donc j'ai trouvé intéressant même l'intérêt porté par ton interlocuteur et les questions qu'il a posées, comme si, en tout cas, tu avais réussi à lui faire toucher du doigt ce truc-là. Voilà. Donc, je vous encourage à écouter l'interview de Nas.
Merci, Shekha, pour l'analyse. Oui, en plus, j'en ai parlé aussi, justement, après, avec des potes. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dès que j'ai essayé de parler de théologie, je me suis... je suis un peu vautré. Parce qu'en fait, j'ai une question en philosophie que je me pose depuis pas mal de temps, c'est est-ce qu'on peut critiquer l'islam et défendre l'apostasie en n'ayant pas des connaissances poussées en théologie ou en islam, quoi. En ayant juste les bases, en connaissant l'impact sur la société. Et donc, effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, j'ai essayé en vrai, j'ai essayé plusieurs fois d'apprendre l'islam, de rentrer dans le détail et tout, mais en fait, perso, j'arrive pas à m'y intéresser plus que ça, tu vois. Je me dis qu'il y a tellement de choses à apprendre autre que ça que j'arrive pas trop à m'intéresser, et donc je préfère, on va dire, me concentrer sur mes autres spécialités, quoi, ou ma spécialité, qui sont la vidéo, la musique, le stream, ces choses là et aussi les témoignages. Et du coup, c'était intéressant de voir quelles étaient, entre guillemets, mes faiblesses et mes forces. Avoir cette interview m'a vraiment permis de faire ce travail là. Je pense que sur d'autres interviews, je vais faire plus attention à ce que je vais dire en termes de théologie, peut-être préparer un petit peu mieux cet aspect-là pour pas dire n'importe quoi. Parce que genre, typiquement, je voulais lui dire quelles étaient les quatre écoles et je ne les avais pas en tête. Et donc j'ai dû chercher sur Google et tout, mais bon, à part ça, c'était quand même intéressant. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est que à force de faire les interviews, pardon, les traductions, et à force d'écouter Mihoub et tout, il y a eu pas mal de trucs que j'ai dit, en fait c'était du Mihoub ou du Jack ou du, parce que tellement ça rentre en tête que si on veut exprimer quelque chose, en tout cas si je voulais moi exprimer quelque chose par rapport à la religion et tout, j'avais déjà des raccourcis que j'ai acquéris grâce à ce travail de témoignage, donc je suis très content du résultat.
Moi, je voudrais ajouter un truc, ouais. Puisque c'est dans ta question. Personnellement, je suis comme toi, je m'intéresse plus au vécu et au témoignage des gens, parce que déjà, pareil, hein, par manque d'intérêt, c'est-à-dire que quand j'ai compris au tout début les bases, hein, le bullshit là sur l'esclavage, mais ça il y a très longtemps, j'ai pas voulu consacrer ma vie et mon temps de cerveau à essayer de trouver un sens à de la merde qui n'en a pas. Donc très vite, en fait, j'ai pas perdu de temps avec ça. Et ce qui m'intéresse plus, c'est le résultat sur le terrain et dans la vie des gens. Parce que en fait, en plus aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont sur le terrain de la théologie, de la hadithologie, fiqhologie, et tant mieux. On voit que on est dans une impasse quand les gens te disent, alors soit c'est pas ça, soit de toute façon personne le fait, et soit non, moi je suis musulman, mais je fais pas ça. En fait, donc il y a ces trois réponses qui finalement font que du côté de la théologie, dire dans les textes il y a de la merde, bah il y a des gens qui vont te dire moi je les prends pas, et c'est même pas la peine de, enfin je trouve que ça arrête la discussion. Moi ce qui m'intéresse c'est comment c'est vécu et comment on est passé, par exemple on a glissé de choses qui étaient dans le passé, et ben ces mêmes choses sont devenues haram. C'est-à-dire que c'est plus ce que les gens en font et la société en fait, la culture, la oumma en fait, que réellement si c'est écrit ou si c'est pas écrit. On a d'autres exemples extrêmes comme celui de l'excision, où finalement il y a que des hadiths da'if, à ce que je sache en tout cas, mais dans certains pays qui sont pris pour des choses, on sait très bien, hein, c'est le patriarcat qui s'en sert et tout ce qu'on veut, mais en tout cas c'est intouchable et indiscutable. Même si, par exemple, Azhar a émis une fatwa qui, une fatwa apparemment, on peut s'en foutre si on en a envie, pour dire il faut arrêter les mutilations génitales féminines, en fait, sur le terrain, tout le monde s'en fiche et 96% ou plus des Égyptiennes sont excisées, pareil en Guinée, tout ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent et croient les musulmans de ce qui est islamique ou pas. Et la preuve, c'est que même quand on leur met sous les yeux ce qui l'est et ce qui ne l'est pas, ils changeront pas d'avis sur ce qui doit se faire ou doit pas se faire, en termes surtout de contrôle des corps, des mœurs, du patriarcat, de la sexualité, de l'homosexualité, tout ça. C'est pour ça que je laisse la théologie à des gens que ça intéresse et qui sont bons là-dedans. Et comme toi, j'accorde plus d'importance à ce que ça veut dire concrètement dans la vie des gens, comme souffrance, comme traumatisme, que ça soit écrit dans Pif Magazine ou dans le Coran. Pareil.
Pif Magazine.
Tu vois, Pif.
C'est quelque chose aussi qui était évoqué dans la discussion que j'ai eue. Dans l'apostasphère, il y a déjà de très très bons théologiens. Je pense à Mihoub, je pense à Dr Khaled, je pense à Collectif Exmus, Régulus et Ruyen, à Sagesse d'Islam. Donc il y a déjà des gens qui sont à Beber aussi, à Yanis, il y a déjà des gens qui sont assez calés, assez armés dans ce domaine-là. Donc on leur fait confiance sur la partie théologique. Si jamais il y a des débats, si jamais il y a des questionnements sur tel ou tel sujet, on peut aller sur leur chaîne et on peut se renseigner sur n'importe quel sujet. Vraiment, ils attaquent que ce soit le Coran, mais jusqu'à la sira du prophète en détail, ce que fait Sagesse d'Islam, c'est vraiment incroyable. Par exemple. Donc voilà, nous on essaie aussi de voir s'il n'y a pas d'autres aspects de la religion à traiter, notamment l'aspect social, l'aspect politique aussi, l'aspect personnel, psychologique. Il y a tellement de choses aussi qui sont impactées en fait juste par cette religion que on est obligé en fait de se splitter et de spécialiser chacun sur tel ou tel domaine. Et moi personnellement, la traduction pour l'instant c'est le filon que j'ai trouvé parce que personne d'autre le fait. Et s'il y a d'autres gens qui vont le faire, qui vont faire la traduction, moi je vais pouvoir me concentrer aussi sur d'autres aspects qui sont pour l'instant inexplorés. Voilà.
On valide.
Et du coup, toi, Jean-Foiré, juste pour finir, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'on vient de dire ?
Je vous écoute avec beaucoup d'attention et il y a un truc qui m'est venu à la tête, c'est un petit peu l'anthropologie qui se fait dans les universités, puis l'anthropologie de terrain. Tu ne te mets pas dans une position d'observation. Tu ne peux pas comprendre réellement quelles sont les dynamiques interpersonnelles dans un groupe culturel, religieux, etc. Aujourd'hui, je suis absolument convaincu que ce qui se passe au sein d'un groupe culturel en France et encore de l'ordre de l'exotique pour beaucoup de Français. Je pense que des personnes comme nous qui avons vécu dans un pays où c'était généralisé, hein, on sait très bien comment ça marche, on sait très bien comment les choses sont amenées tout doucement, très insidieuses, etc. On sait comment ça marche. Et c'est important aussi. C'est pas ce qui est important, c'est pas uniquement d'être sur une tour d'ivoire et d'observer les choses d'en haut et d'essayer de voir essayer de faire de la théologie, de la philologie, de la hadithologie, etc., de voir quel texte a été traduit par quel exégète, etc. Mais c'est aussi de dire ce que ça signifie réellement dans la psyché des gens, quels sont les mélanges qu'il peut y avoir du point de vue de la vraiment des relations interpersonnelles. Ça veut dire quoi, en fait, aujourd'hui, être musulman sur le terrain. Dans une famille, ça veut dire quoi être musulmane? Ça veut dire quoi être un enfant au sein d'une société islamique? Ça veut dire quoi être une femme au sein d'une société? Ça veut dire quoi être un homosexuel au sein d'une société islamique? Je pense que c'est important, c'est super important. C'est aussi important que de faire voilà, des thèses. C'est de la théologie pratique, j'ai envie de dire.
Ouais.
Et c'est fondamental, parce que c'est ça en fait qui... quand on parle par exemple de danger, là, les gens se cachent, et c'est important de le dire, les gens se cachent, c'est pas des livres, c'est pas de le faire, c'est pas le hadith, c'est pas des hadiths qui nous menacent, c'est nous-mêmes, on a des relations, il faut bien comprendre, les sociétés musulmanes sont des sociétés extrêmement, où les individus sont très 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 proches les uns des autres. Dans tous les sens du terme, il y a une promiscuité, une proximité entre les individus. Et c'est important de le dire, et c'est important de dire ce que ça veut dire réellement dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Je pense que des gens comme Mia arrivent à le traduire très très bien. Ah oui, ben on comprend en fait tout ce que vous dites. On comprend que il y a des écoles, il y a des quatre, donc les malékites, les chaféites, les hanbalites et les hanafites. Je l'ai dit. Alors là, je parle pas des chiites. Mais dans ces quatre écoles, quelle que soit l'école, etc., il y a une application de tous les jours. Il y a la vie de tous les jours qui est, on est une salade de fruits avec beaucoup trop de jus de citron, j'ai envie de dire. Et ces jus de citron là, bah, parfois, c'est un peu compliqué à supporter. Et c'est la religion dont on est sorti, qu'elle soit vraie ou fausse d'ailleurs. C'est pas important.
Oui. Voilà.
Qu'elle soit expliquée ou pas. C'est pas les gens. Exactement. Les gens qui nous disent, par exemple, tel ou tel truc. Est mal appliqué. On parle de la circoncision. Vous venez de parler de l'excision, par exemple. La circoncision, c'est ce qu'on appelle une fitra. C'est pas fard de la circoncision. Il y en a cinq des fitras dans l'islam. La circoncision est aussi obligatoire que de se raser les poils du pubis. Il faut le savoir, il faut que les gens le sachent, ça. Mais le problème, c'est que sur le terrain, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça le problème. Et je suis content justement qu'il y ait des gens comme toi et Mia. On n'a pas l'impression de. On a l'impression que ceux qui passent leur temps à traduire des textes, à voir des Taymiya, des Tabari, etc., etc., c'est des gens qui, bien sûr, qu'ils apportent quelque chose. Mais faut pas oublier qu'il y a des gens derrière et des personnes, de vrais individus comme vous, moi et ceux qui nous écoutent, vrais individus.
Les enfants.
Et des enfants.
Ouais.
Et des femmes, absolument.
Parce que justement, dans la liste que tu as donnée tout à l'heure, pour moi, les principaux aussi, c'est les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant dans une société islamique? Parce que ça, ça commence par là, en fait. Une fois que... dès que tu es un enfant, tout le travail se fait à cette période-là. Ok, tu peux être converti plus tard quand tu es adulte, etc. Mais en vrai, sur les 1,8 milliard de musulmans qu'il y a sur Terre, la plupart ont été endoctrinés à l'enfance et les convertis, c'est rare, quoi. Enfin, par rapport au total. Et donc, si on arrive à faire émerger tout ce qui se passe pendant l'enfance, que ce soit en termes d'endoctrinement, en termes de tu fais peur à ton fils pour qu'il fasse telle ou telle chose islamique, la circoncision, la virilité mal placée, la sexualisation des petites filles, c'est des sujets de base qu'il faut attaquer au-delà, bien sûr, des textes, etc.
Et puis il faut aussi, je pense que c'est important, ce qui est important aussi, c'est pas uniquement, encore une fois, hein, c'est important de le rappeler, c'est pas uniquement ce qui est dit, mais c'est tous les effets secondaires, parce que l'humain se trompe de cette manière, et puis on l'a dit la dernière fois, la nature a horreur du vide, rien ne se perd. Lorsque tu appliques, même si le texte est extrêmement clair, etc., les enfants, quand on en parle, ça veut dire quoi pour eux indirectement, en fait? Indirectement, ça veut dire quoi? Ce que subissent ces adultes, à un moment ou un autre, va ruisseler sur leurs enfants. On parle pas uniquement d'endoctrinement ici. On parle aussi du comportement des adultes qui peuvent souffrir et qui peuvent faire ruisseler cette souffrance par les enfants. L'excision, c'est des femmes qui la pratiquent. Donc, c'est des personnes qui ont souffert de l'excision qui vont pratiquer l'excision. Faut vous s'en rappeler. Et ça, si tu n'es pas dans le terrain, si tu n'es pas un observateur direct, si tu es juste, encore une fois, sur une tour d'ivoire pour savoir est-ce que l'excision est une obligation religieuse ou pas, tu peux pas le voir, ce genre de choses, tu peux pas les voir. Alors, par exemple, on en parlait, Nas, la dernière fois, le fait que les enfants qui aient beaucoup, et je n'ai pas de chiffres, je peux pas y donner. Mais qu'il y ait beaucoup d'agressions, beaucoup d'attouchements dans les sociétés religieuses, c'est un ruissellement indirect. C'est pas, on n'est pas en train de demander aux gens d'attoucher les enfants, bien sûr que non. Mais les humains se trompent. Les humains ne peuvent pas. Les humains, c'est comme des arbres. Si un arbre, tu le fais pousser entre deux murs, il va pousser les murs. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Et ben, les enfants, c'est eux qui prennent. Et des gens comme, encore une fois, je le dis, je redis, des gens comme Mia, c'est des gens qui nous ouvrent les yeux sur voilà ce qui se passe réellement. C'est pas que la théorie, c'est aussi beaucoup, beaucoup de pratiques. Voilà ce que j'en pense. C'est beaucoup. Je suis désolé. J'ai pris beaucoup de temps.
Non, c'est nickel.
Non, c'était très intéressant.
Ça permet d'articuler avec cette histoire de comment on passe de ça relève du fait divers à c'est un phénomène de société. Et effectivement, ce regard un peu exotique qui demeure, en fait, hein, malgré tout ce qu'on dit, c'est souvent, ça se heurte à cette idée que si, les abus qu'on dénonce existent dans toutes les cultures et les classes sociales.
Oui, bien sûr.
Donc, ça les banalise. Et pour l'instant, on doit travailler à cette idée que c'est systémique, en fait, et que c'est des phénomènes de société ou de sous-culture. Moi, je suis pas sociologue, ou je peux pas, je sais pas comment le formuler de façon exacte, hein, mais au sein de la Oumma qui se réfère à l'islam tel qu'elle le veut bien le comprendre, parce que voilà, la véracité, je vais laisser ça aux autres. Hein, il se passe des choses qui relèvent du phénomène de société, qui sont prévisibles à 99% des cas, en fait. C'est plutôt quand ça se passe pas comme on prévoit. Alors, bien sûr, hein, on peut m'accuser d'essentialisation en disant ça. Sauf que je suis en train de parler d'une idéologie et pas d'ADN. Et cette idéologie, étant donné qu'elle est totalitaire, et c'est pas, ça demande pas un calcul savant de comprendre que si l'idéologie était totalitaire, elle crée un phénomène de société qui est prévisible à 99%, même si c'est pas comme ça que ça doit se dire, j'imagine. Voilà. Mmh. Et c'est ça, en fait, le tournant qui me paraît important, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre que c'est systémique et que ça ne relève pas du fait divers, et que même si ça relevait du fait divers, on va imaginer, il est quand même difficile pour des enfants, des femmes qui subissent des abus, d'être reconnu, d'être entendu, même où il n'y a pas cette prédominance écrasante du patriarcat et de tout ce que ça implique. Alors, je vous laisse imaginer, si ça vous intéresse, hein, les victimes de faits divers, je vous laisse imaginer ce que c'est dans une société où la virginité est sacralisée, où on doit se marier que entre musulmans, où il faut être vierge jusqu'au mariage, etc., etc. Comment, dans ces cas-là, les victimes peuvent être entendues, reconnues, protégées? Et effectivement, je vais boucler en revenant sur ce que dit Jean Foiré, on livre les enfants à la maltraitance, à la violence et aux prédateurs. C'est ça qu'on fait.
Merci, cher.
On crée les prédateurs, surtout. C'est ça le problème, c'est qu'on crée les prédateurs. C'est ça le plus gros problème.
Qui sont eux-mêmes victimes, au final. Juste une dernière chose. Donc, il y a le média This is Riviera, je sais pas comment le dire. C'est un média spécialisé dans l'actualité musicale, etc., surtout du rap, qui ont remarqué le clip Tourment. Et donc, ils m'ont proposé de publier un article sur Tourment. Donc, j'étais très content du résultat. Et ils ont mis aussi le son sur leur playlist This is Riviera, ici en top artiste et sur YouTube également. Ça, c'est cool. Moi, j'étais très content parce que il n'y a pas beaucoup de médias, notamment des médias musicaux, qui parlent de l'apostasie, qui mettent en avant les productions musicales liées à l'art apostat, comme Hassanet de Sheikha. Donc j'étais très content que ça soit mis en avant dans un média mainstream. Ça permet peut-être à une petite partie qui connaît pas du tout l'apostasie, la critique de l'islam, de découvrir ce que c'est. Et donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y aura d'autres articles dans ce sens et surtout d'autres médias qui vont mettre en avant l'art apostat. Parce que l'apostasie, je le répète, c'est un art aussi.